Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Petit et but,
et troisième
et but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute. Là, je crois que c'est Rapado.
Rapado.
Ah oui.
On est dans la deuxième heure de Rotten sans flamme, on est en mode Coupe du Monde, vous l'entendez bien, on est chaud déjà avant, déjà on a chaud parce qu'il recommence à faire chaud ici à Paris, on est au Flora à la brasserie, dans une brasserie parisienne sur les grands boulevards dans le 9e arrondissement, donc venez, on est déjà, il y a déjà du monde, on est en terrasse avec Manu Petit, avec Benoît Boutron et avec Christophe Dugarry, on a passé une excellente première heure, elle est déjà disponible en podcast. Abonnez-vous à la chaîne Rotten sans flamme, mais surtout, restez à l'écoute. On est là jusqu'à 20h et encore une belle deuxième heure, Benoît.
Et pour les podcasts, téléchargez l'appli RMC. Tous les podcasts sont disponibles, donc n'hésitez pas, c'est le bon réflexe à adopter. À 19h35, on parlera des nations africaines. Comment expliquer ce plafond de verre des nations africaines? Elles étaient 9 qualifiées pour les 16e. Pour l'instant, seul le Maroc atteint les 8e de finale. Il reste 3 chances avec le Ghana, le Cap-Vert et l'Égypte. On en débattra tout à l'heure, donc à 19h35. Et tout de suite, retournons aux États-Unis. On va retrouver Xavier Grimaud qui nous attend. Salut Xavier.
Salut Benoît, salut Jérôme, salut à tous.
Avant de reparler de l'équipe de France, on voulait parler avec toi de la démonstration espagnole hier à Los Angeles. Cette victoire 3-0 face à l'Autriche, 64% de possession de balles, et certainement le match le plus convaincant des Espagnols depuis le début du Mondial.
Oui, l'Espagne est de retour et l'espoir revient. C'est pas moi qui le dis, c'est la presse espagnole qui titrait ça après le match d'hier. Parce que c'est vrai que le premier tour des Espagnols, alors ils n'ont jamais tremblé, hein, évidemment, mais ils n'ont pas forcément brillé. C'est pas l'équipe dont on parlait le plus. Et c'est vrai qu'hier, eh bien, ils vont faire un vrai bon match avec un retour du jeu de passe, du jeu de vitesse également, ce qui accrédite un peu leur mantra depuis le début de la compétition, à savoir qu'ils vont monter en puissance au fil des matchs. C'est vrai que les Autrichiens s'attendaient peut-être à un peu plus de répondants, mais c'est surtout qu'ils ont eu la tête qui tourne par moment. Et Ralf Rangnick a même dit, le sélectionneur de l'Autriche, qu'ils avaient peut-être été éliminés par le futur champion du monde. Et Luis de la Fuente a répondu à ça, évidemment, en conférence de presse d'après-match.
Je pense qu'il faut tout améliorer. Nous avons montré une excellente image, une excellente version de notre équipe, mais c'est notre état d'esprit de continuer à nous améliorer. Je pense qu'il faut continuer à s'améliorer avec la perspective que cette équipe n'a pas encore atteint son meilleur niveau. Elle a encore beaucoup de possibilités d'amélioration. Je remercie le sélectionneur de l'Autriche. C'est une équipe qui a du cœur, mais je ne suis pas d'accord. Notre équipe est très ambitieuse, insatiable, sportivement, et nous voulons le montrer un peu plus chaque jour.
Voilà, mes joueurs ont un potentiel infini. Voilà ce qu'a dit également Luis de la Fuente, et je pense qu'on peut le croire. Ils sont capables de faire beaucoup mieux, et notamment Lamine Yamal. Alors, il a fait son meilleur match de la compétition, très certainement le Barcelonais, avec des dribbles qui sont passés. Mais bon, il n'y a pas encore la vitesse, et il ne fait pas encore les différences qu'on peut attendre de lui. Il est passé en zone mixte après, très attendu par les journalistes espagnols, et il a dit un petit peu son état d'esprit pour la suite de ce mondial.
Eh bien, c'est ce qu'il y a de plus grand dans le football. Je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une Coupe du Monde. Finalement, quand un enfant rêve de jouer au football, il rêve de jouer pour son équipe nationale et dans un mondial. Donc je suis là, je pense à continuer et à réaliser mon rêve de gagner une Coupe du Monde avec l'Espagne.
Mondial en Espagne.
Lui aussi, la confiance en lui, il l'a dit, hein, l'Espagne n'est pas moins forte que la France. Les Espagnols sont sur deux, et effectivement, on va peut-être les remettre un peu plus haut dans les discussions pour la suite de ce mondial.
Merci Xavier. Jérôme, merci, tu m'en parlais, tu as été impressionné par l'Espagne hier. Hein.
Oui, alors après, c'est toujours pareil, il y a l'adversaire. L'adversaire a laissé la possibilité à l'Espagne de mettre son jeu en place, mais ils ont été très performants dans leur point fort, c'est-à-dire dans la possession de la balle, dans la circulation de la balle, et surtout la récupération assez vite. Ils ont asphyxié cette équipe autrichienne. Il y a des joueurs qui ont excellé vraiment et qui ont évoluer à leur meilleur niveau, un peu comme nous les Français, et c'est pour ça que c'était beau à voir, du moins le milieu de terrain, franchement, Pedri, Rodri, Baena aussi, ouais. qui joue sur le côté gauche, là, le joueur de l'Atlético Madrid.
Bonjour.
Les latéraux, Porro d'un côté, Porro, il m'a étonné parce que je l'ai jamais vu jouer comme
Tottenham,
ça.
Tottenham, on l'a pas vu comme ça.
Non, mais c'est pour ça. Cucurella, ouais. C'est-à-dire dans l'efficacité ou
on l'a pas vu aussi.
Ouais, dans
il a souvent été, il a répondu présent.
Hein. Après, peut-être c'est lié aussi à une équipe qui a galéré, tu vois, mais son club. Mais Cucurella a été très bon,
ouais.
Vraiment. Et puis après, Olmo, Yamal. Encore, on sent que il arrive à son meilleur niveau, mais
Yamal aussi, la mission.
Ouais, devant. Non, franchement, ils ont été impressionnants. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est c'est que l'Autriche, ok, mais ils ont rien laissé à l'Autriche, quoi. Ils ont concédé aucune situation. Je crois que l'Autriche, c'est zéro tir cadré. Ouais,
il y a deux situations.
Non, mais d'accord.
Il n'y a pas un attaquant en Autriche.
Ouais, ouais, bah, il n'y a pas un attaquant. Mais la Suède, qui n'est pas la meilleure équipe du monde aussi.
Il y a des attaquants en Suède.
Non, mais ils sont quand même créé énormément d'occasions.
Et la Suède, Autriche, qui c'est qui gagne?
Moi, je suis pas sûr.
Bon. Bah, non, je te pose la question. T'es pas sûr de quoi?
Kiff, kiff.
Bon, bah, d'accord, c'est kiff, kiff. Ouais. Donc, je trouve que l'Espagne a écrasé l'Autriche comme nous, on a écrasé la Suède.
Manu, vas-y.
Non, moi, j'ai vu hier des choses qui m'inquiètent du côté de l'Espagne, dans le bon sens du terme, hein, pour eux. C'est-à-dire qu'ils retrouvent progressivement les vertus et les fondamentaux qui font leur qualité essentielle, c'est-à-dire la dominance où on prend le ballon, on impose un rythme au match et on laisse rien à l'adversaire en fait. Et j'ai vu par séquence où ils étaient en train de revenir justement à leur deuxième force qui était le contre-pressing où ils étouffaient l'adversaire.
C'est ça, c'est ce que
dans
je
leurs
te disais,
35 derniers mètres. Donc tout ça en attendant que leurs deux flèches. Nico Williams, je sais pas, mais en tout cas, Lamine Yamal, je pense qu'il va revenir progressivement et qu'il est pas très loin, à mon avis, de revenir à son meilleur niveau. Il lui faut simplement du.
Oui, c'est le facteur X.
Oui, je pense. Voilà. Donc, le collectif, pour moi, et c'est d'ailleurs, on va en parler dans le thème.
Ouais.
J'ai jamais vu une équipe gagner et basée simplement sur des individualités. J'ai toujours vu un collectif derrière des individualités. Et aujourd'hui, l'Espagne est en train de redevenir l'Espagne qui nous faisait peur il y a deux ans pendant l'Euro.
Vous avez vu le troisième but? Moi, le troisième but du gars, je l'ai trouvé fabuleux.
Ouais. Il y a des séquences de jeu.
Non, mais même la possession, mais pas la possession à outrance, tu vois. Ils arrivaient à trouver des intérêts.
Et ils jouaient beaucoup plus rapidement dans la transmission de balle. Kokourala l'avait dit en conférence de presse en disant oui, on s'endort un petit peu dans ces possessions de balle où on joue un petit peu à la baballe. Là, ils avaient l'intention de mettre du rythme dans les courses, mais également dans les transmissions.
Du gars.
Bah, on était surtout surpris de leur petit niveau démontré depuis le début de la compétition. Là, j'ai envie de dire, c'était super ce qu'ils ont fait. Attention, c'était le grand. On a retrouvé le grand Espagne sans aucun problème. Mais c'est ça leur véritable niveau. C'est celui-là. Voilà. Jusqu'à présent, ils avaient du mal parce qu'il y avait des blessures, parce que bon, collectivement, c'était un peu compliqué. Les titulaires n'étaient pas là. Là, ils ont retrouvé de la qualité, de l'intensité, un collectif, quelque chose de grand, de fort. C'est pas une surprise. On savait qu'ils étaient favoris avec l'Argentine. Voilà, et la France, c'est les trois favoris. C'est les trois équipes qui se dégagent. C'est les trois équipes qui ont le meilleur collectif, qui ont un jeu clair, net et précis, une façon de jouer qu'ils maîtrisent parfaitement, qui sont des façons de jouer différentes, que ce soit la France, l'Espagne ou l'Argentine. C'est trois façons de jouer totalement différentes, mais parfaitement maîtrisées par les joueurs. Donc voilà, laquelle des trois qui gagnera la compétition, j'en sais rien, mais bien évidemment que cette équipe espagnole, elle est à surveiller. Moi, je garde ma confiance à l'équipe de France. Je pense que là, la palette de l'équipe de France est encore plus large que celle de l'Espagne. Mais c'est Espagnols, ils maîtrisent tellement bien leur sujet, leur sens du collectif, ils ont tellement l'habitude de jouer ensemble, ils sont très très forts, c'est certain. Après, j'attends de voir quand ils joueront un adversaire de meilleure qualité, parce que pour l'instant, ils ont joué que des équipes.
C'est l'eau de toutes les équipes. Hein.
Oui, c'est vrai. Contre le Portugal, il n'y a pas photo contre le Portugal de ce que vous avez vu depuis la compétition.
Pour moi, il n'y a pas photo. Si l'Espagne joue comme ça, le Portugal, ils ne vont pas avoir le ballon. Et ils vont se faire marcher dessus. C'est compliqué. Ça va être compliqué. Si l'Espagne joue comme ça, personne peut les battre. Le Portugal, pour moi, n'a pas le niveau pour les battre.
Ouais. Non, mais le Portugal, le problème, c'est que ce que tu disais, Duga, et je suis d'accord avec toi, il y a les équipes qui sont favoris pour cette Coupe du Monde, et la preuve, au début, on a joué au jeu des favoris, les trois équipes qui se dégagent plus de force, c'est l'Argentine, la France et l'Espagne.
Exactement.
Bon, ils sont au rendez-vous, ok. Mais c'est des jeux très identifiés. C'est vrai que le Portugal,
Moi, mais c'est à cause du sélectionneur, encore une fois. Je vous dis, lui, c'est une trompette. Hein.
Donc, ça a été le fossoyeur, mais ça a été le fossoyeur de la Belgique. Ils ont une génération de la Belgique. Ça a été... Il n'est pas bon, ce coach.
Dans quel sens, les gars, en fait?
Il n'y a pas de. Est-ce que tu sais comment la version que tu vas avoir du Portugal quand il joue? Tu vois, le Portugal, moi, je pars du principe que c'est même sûr, contre l'Espagne, ils ne vont pas avoir le ballon. Sauf que sur les matchs qui ont été des mauvais matchs pour moi des Portugais, ils ont eu le ballon. Ouais. Ils ont eu le ballon, alors après ils se redoublent les passes, tu sais pas, tu vois, ils cherchent à par moment à envoyer Cristiano Ronaldo qui est assez statique, tu vois. Donc en fait, je sais pas, j'arrive pas à imaginer, si tu veux, le Portugal contre l'Espagne. Qu'est-ce qu'ils vont proposer en fait? Est-ce que
ils vont contrer, Jérôme? Ils vont contrer avec les arguments.
Ils contrer en transition, ils te font des choses rapides.
Oui, mais t'as Nuno Mendes qui fait les différences côté gauche.
Et contrer quand il l'a pas
fait.
Non mais contrer quand il l'a pas
devant qui va prendre l'espace.
Ah bah devant, oui, en position numéro 9, c'est compliqué. Mais t'as les ailiers qui sont très forts.
Si tu acceptes de défendre face à l'Espagne des joueurs en transition, il te faut quand même des joueurs qui sont capables en un contre un et dans la
position de faire les différences. Là, l'avantage du Portugal, l'avantage du Portugal sur le match d'hier, c'est que pour moi, Neto et Leao, c'est les deux joueurs qui doivent jouer sur les côtés. Ouais. Il avait une hésitation, Leao, c'est peut-être
moi, c'est au milieu,
la réalisation.
Non, mais mon questionnement, il est au milieu.
Non, mais il est au milieu.
On est quand même fantasmé depuis deux ans par la qualité des joueurs du Paris Saint-Germain.
Ils sont moins bons en sélection.
Mais c'est pour ça. Je me dis pourquoi. Qu'est-ce qui se passe, exactement, en fait?
Joao Neves, c'est le jour et la nuit. Hein.
Avec Fernandez, en plus, qui est un superbe joueur. Pourquoi ils arrivent pas à maîtriser le milieu?
Et Vitinha, il joue à la baballe. Non, mais franchement, il fait pas un changement. Alors peut-être que le fait d'avoir Neto et Leao sur les côtés, il va avoir plus de fluidité, plus de rapidité. C'est une possibilité parce que vraiment, Leao sur le match d'hier, il t'a bonifié un peu l'équipe du Portugal.
19h17 sur RMC, on marque une pause et on revient, on reparle de l'équipe de France et de cette osmose collective. Est-ce que c'est la clé de la réussite? À tout de suite sur RMC.
RMC, 18h20, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
On est rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Oh, but! Tête de Zidane!
Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h22 sur RMC, on est là, on est toujours dans Rotten sans flamme avec Manu Petit, avec Christophe Dugarry et avec Benoît Boutron. On est là jusqu'à 20h comme tous les soirs, on est vendredi soir, tout va bien, on passe une belle émission. On va parler de l'équipe de France.
Ouais, et on parlera des nations africaines à partir de 19h35.
Il y en avait beaucoup, mais il n'y en a plus beaucoup.
Comment expliquer justement ce plafond de verre des nations africaines dès que les matchs à élimination directe arrivent? Dans 40 minutes, le coup d'envoi d'ailleurs de ce... Égypte, Australie. Mais parlons des Bleus avec Valentin Germain qui est à Philadelphie, sous la chaleur justement des États-Unis. Salut Valentin.
Salut à toutes et à tous.
Salut Val.
Bon alors, insupportable cette chaleur, Valentin?
Il fait très très chaud, 40 degrés à l'ombre. Dès que tu sors, t'es une flaque d'eau tout simplement. Et c'est très très lourd, très humide. Et ici, c'est quand même la ville où on a signé le traité d'indépendance. On fête les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Ici, c'est un symbole très fort. Ils ont carrément annulé la parade qui devait avoir lieu dans la rue aujourd'hui en dernière minute, pour vous dire que ce sont des chaleurs historiques.
Parle-nous de cette équipe de France et de l'ambiance qui y règne, Valentin, parce qu'on voit à travers tous les contenus fournis par la Fédé, qui sont de grande qualité d'ailleurs, que ça rigole, ça chambre et tout le monde a l'air de passer des bons moments. Est-ce que vous le ressentez, vous, au plus près des Bleus d'ailleurs?
Oui, messieurs, le groupe vit bien, ne vous inquiétez pas. C'est vrai qu'on voit des petites scènes, joueurs par exemple qui arrivent en se marrant à l'entraînement sur une voiturette, les fous rires sur la chanson à l'anniversaire de Jean-Philippe Mateta, Kanté qui se fait beaucoup chambrer aussi sur le choix de ses repas originaux. La moitié de l'équipe est marrante, nous disait récemment William Saliba, qui citait par exemple Dembélé, Mbappé, Marcus Thuram. Il y a Ryan Cherki aussi qui fait partie des petits rigolos, il est très chambreur et je ne sais pas si vous vous souvenez, sa pose étonnante, disons, sur la photo avec la ministre des Sports, ça avait fait bien rire ses coéquipiers pendant pas mal de jours, et lui aussi rigole beaucoup. Donc l'ambiance est vraiment bonne au sein du groupe. Il y a forcément des affinités plus fortes liées au club ou au passé en sélection de jeunes, mais aucun clan, et c'est important, nous dit-on. Les nouveaux sont très bien intégrés et c'est assez fréquent par exemple qu'après le repas une bonne partie de l'effectif reste à table pour regarder le match ensemble. Certains s'affrontent à la console, se réunissent dans des chambres pour discuter à plusieurs, font des jeux de société, et même entre concurrents, ça aussi c'est notable. La meilleure illustration, c'est Doué Barcola qui passe beaucoup de temps ensemble sur cette compétition. Ça s'explique notamment parce que les joueurs joueurs sont proches au niveau de l'âge, hein, seulement 4 ont plus de 30 ans, donc il y a les mêmes centres d'intérêt. Et puis autre chose, il ne faut pas négliger aussi les temps libres laissés par Deschamps avec les familles. Ça apporte, nous dit-on, beaucoup de légèreté dans le groupe et du positif. Par exemple, et même en contre-exemple, à l'Euro 2020 en 2021, c'était bien moins fluide. Donc là, on a laissé un petit peu les égos de côté, tout le monde à la banane, personne ne râle aussi sur son temps de jeu, avec en tête la mission Coupe du Monde que tout le monde s'est fixée.
Merci Valentin. Est-ce que c'est la clé de la réussite, cette osmose collective, les gars, à travers votre expérience?
Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont la clé pour les Coupes du Monde. Ça, Didier Deschamps, il n'y a pas de problème, que ça soit en Russie, que ça soit au Qatar. Je ne parle pas de celle de 2014 au Brésil, parce que ça, c'était le tout début, la première grande compétition de Didier. Mais derrière, la Coupe du Monde, il arrive à bien gérer, si tu veux, son groupe là-dessus, les personnalités et tout ça, il n'y a pas de souci. Après, à l'Euro, moi je veux bien qu'on fasse référence de 2020-2021. En effet, l'ambiance qui était pas très bonne. Mais je peux te dire que l'Euro en 2024 aussi, j'ai vu les attitudes, elles étaient pas très bonnes non plus. Et là où les attitudes peuvent commencer à évoluer et ressentir un peu de frustration, c'est quand déjà t'as quelques matchs qui sont passés et que t'as des joueurs qui ont pas joué. Donc il y en a pas beaucoup, il y en a que 3 pour l'instant, mais c'est quand même 3. Alors quand tu vois la personnalité de ces 3-là, tu te dis que normalement il y aura pas de souci.
Zaire Emery, Lucas Hernandez et Robin Rissard.
Ouais, donc tu te dis qu'il y aura pas de souci. Après
et Ndolo Kanté aussi.
Après t'as 3 joueurs de champ.
Ouais.
Et après t'as les matchs à élimination directe qui rentrent en jeu, il y a beaucoup plus de pression. Donc quand tout va bien, et on est passé par là, c'est dire il y a pas de problème. Heureusement qu'ils arrivent à bien vivre ensemble, à rigoler, à faire des choses en dehors du terrain et tout ça, et à trouver une certaine ambiance dans le groupe. Il y a pas de souci. Heureusement qu'il y a ça. Mais quand ça commence à être dur, que on peut se poser des questions. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais sur certains choix de l'entraîneur ou des joueurs qui sont frustrés parce qu'ils ont pas assez de temps de jeu, parce que eux pensent qu'ils sont supérieurs à certains qui jouent. Ça, tu peux sentir, si tu veux, au fur et à mesure des jours, une certaine frustration, et ça peut, je te dis pas casser l'ambiance, mais ça peut jouer sur l'ambiance. Mais pour l'instant, tous les feux sont ouverts et que ça reste comme ça.
Manu.
Moi, je pense que c'est très important en sélection. En club, c'est différent. Tu peux, t'es pas obligé d'aimer tes coéquipiers pour gagner des matchs, parce qu'une fois que t'as fini l'entraînement et les matchs, tu rentres chez toi. Là, tu vis 24 heures sur 24 ensemble.
Ah oui.
Tu es ensemble, quoi qu'il arrive. Tu vas croiser les mêmes têtes 20 fois par jour.
Ouais.
Donc,
pendant 40 jours, 50 jours.
Voilà, donc si jamais il y a des problèmes, et souvent, regarde ce qui s'est passé avec certaines nations où il n'y avait pas une ambiance exceptionnelle, et on a vu que ça a craché assez rapidement. Je pense notamment à l'Allemagne, en certains joueurs entre eux, mais même avec le sélectionneur, où c'était vraiment un désaveu. Quand j'écoute, en plus, Lothar Matthäus a parlé des femmes des joueurs, qui souvent amènent des problèmes également, quand tu es en sélection. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention. Après, comme je viens de le dire, tu n'es pas obligé d'aimer, d'apprécier la personne avec qui tu joues, mais il faut la respecter et il faut avoir les mêmes objectifs. Parce que les problèmes que tu peux avoir à l'extérieur du terrain, des fois, ils peuvent survenir à l'intérieur du terrain dans des compensations, dans des passes que tu ne fais pas tout de suite ou que tu me fais trop tard.
Ça génère une frustration.
Ça peut générer une frustration, mais j'ai confiance en Didier Deschamps parce qu'il a l'expérience. Ouais. Et j'ai confiance également à ce groupe parce que on avait des questionnements autour de Kylian Mbappé sur son ego. Est-ce que ça pouvait évoluer, être un problème, hein.
Ouais.
On voit que depuis la compétition, c'est pas le cas. Et on voit au contraire qu'il y a beaucoup de joueurs avec beaucoup d'humilité dans cette équipe-là. Et pour moi, c'est quand même un facteur important.
Ouais. Duga, t'es d'accord ?
Oui, alors après c'est pas l'unique, ça suffit pas quoi. Une bonne ambiance ne suffit pas à te faire champion du monde, mais bien évidemment qu'elle est importante. Une mauvaise ambiance peut te faire perdre la compétition, alors que t'as des bons joueurs, alors que t'as une bonne équipe, alors que voilà, ça peut tout ça reste très très fragile. Après c'est au bon vouloir des joueurs, hein. Voilà, c'est pour ça que la grande force, on l'a toujours dit, de Didier Deschamps, c'est peut-être pas toujours de bien faire jouer ses équipes, mais par contre il sait repérer les mecs qui peuvent t'embrouiller, il sait créer des groupes, il sait faire des groupes quand t'amènes 23, 24, 25, 26 mecs pendant passé 5-6 semaines ensemble, voilà, il faut sentir les gens. Et ça, pour le coup, il sait faire. Voilà, il sait faire. Donc c'est vrai que l'ambiance est bonne. Moi, je pense qu'il y a aussi l'effet générationnel. Je pense que le fait qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe qui parlent le même langage, ça compte.
Voilà, ouais, c'est quelque chose d'important. Les mêmes centres d'intérêt, t'as raison.
Voilà, exactement. J'ai entendu d'ailleurs Koundé le dire en conférence de presse où il dit voilà, c'est vrai que bon, ça se passe bien entre nous parce qu'on parle le même langage. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe de la même génération.
Ouais, donc là, ça aide forcément. Frérots, là.
Eh ouais, exactement. Ça aide forcément. Donc oui, c'est quelque chose d'important et essentiel. Ça comptera dans les moments difficiles que n'ont peut-être pas encore connu l'équipe de France. Il va y avoir des matchs qui seront certainement un petit peu plus difficiles où il faudra montrer encore plus de solidarité. C'est à ce moment-là qu'on verra si l'ambiance est aussi bonne que ça, parce que ça comptera à un moment ou un autre, ça fera la différence, ça c'est sûr.
Mais bon. en plus c'est à ce moment-là sur les matchs à élimination directe hein, que à l'Euro ça s'était un peu frité hein, au départ. Rappelle-toi, entre
sur le terrain et dans les tribunes.
Ouais.
C'est là, vous parlez de 2024.
Ouais.
Quand on fait demi-finale contre l'Espagne.
C'est pas si vieux.
Non, l'élimination contre la Suisse. Moi, je te fais référence à l'Euro.
Ah, ça, 8e de finale. Alors.
Rappelez-vous ce qui s'était passé sur et dans les tribunes.
Dans les tribunes, c'était. Hein, mais en 2024.
Et les prises de tête sur le terrain aussi entre joueurs.
Hein. Ouais, c'est vrai.
Et en 2024, on a quand même fait demi-finale. On n'a pas fait élimination en 8e. On a fait demi-finale et éliminé contre l'Espagne. Mais quand même, que ça soit 8e, le quart et la demi, on voyait les attitudes des joueurs qui jouaient. Et des joueurs qui jouaient pas et les remplaçants, il y avait pas, tu vois, c'était parti un petit peu en vrille alors qu'au début de la compétition il y avait pas de soucis.
Ouais. Donc il y a un facteur aussi important par rapport à tout ce qu'on dit, c'est que les victoires viennent, c'est le ciment de tout ça.
Oui.
Ça c'est quand tu gagnes, ça crée une dynamique et personne ne peut venir foutre le bordel en fait, même ceux qui ne jouent pas.
Bah, de toute façon là c'est soit tu gagnes et soit tu sautes. Donc bah, oui. Là il y a plus de
victoires sont tellement importantes pour la bonne ambiance.
Mais je pense que là Manu il a raison, ça joue aussi sur l'état d'esprit
quand il y a une dynamique collective comme ça.
C'est quand tous les joueurs se sentent par exemple, je vais te prendre le secteur offensif. Parce que, ils performent pas tous, hein. Il faut arrêter de me dire que Tchouaméni et Koundé font une superbe Coupe du Monde. D'accord? Donc, les autres, je suis désolé, mais dans le secteur offensif, Dembélé, il a mis 3 buts plus 1 but. Ça fait 4 buts.
Et 2 passes décisives.
Et 2 passes décisives. Donc, il existe, il est là, il est content, je pense, de ses stats. Ça, c'est une certitude. Après, de son jeu, bah, écoute, tout peut s'améliorer, mais, tant mieux qu'il soit dans cet état d'esprit-là. C'est la même. Olise, bah, il est sur le toit du monde. Mbappé, on l'a rarement vu, ou du moins jamais vu comme ça, en leader, capitaine. Et il te montre l'exemple sur le terrain, en dehors. Bon, à part quand dans sa communication, des fois, il devrait arrêter de venir nous raconter et nous expliquer le football. Tu vois,
c'est pour ça que j'insiste sur l'humilité des joueurs. Parce que les joueurs que tu viens de citer sont le symbole de ça. Dembélé, Ballon d'Or, 2 fois champion d'Europe à la pointe de l'attaque. On lui dit tu vas retourner à la position d'ailier droit que tu étais avant.
Mais tu sors avant les autres.
Mais tu râles pas. Hein.
Ouais,
d'accord.
Ouais.
Et Olise, qui parfume depuis 2 ans, il est brillantissime à droite Bayern. On lui dit tu vas jouer dans l'axe.
Ouais.
Mais tu râles pas.
Exactement.
Ok. D'un coup, on te met Doué, mais
Barcola.
Il est pas. Ouais, il est à demi en demi-teinte. On lui dit tu vas sur le banc. Mais tu te plains pas non plus.
Et Mbappé, on lui dit t'es neuf, tu te
Ah bah non, ça va. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la relation qu'il y a aujourd'hui dans le secteur offensif, ces séquences de jeu qui c'est un ravissement à regarder. Bah pour moi, ces joueurs-là sont le symbole de tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont mis leur ego de côté, ils se sont pliés justement à l'équipe, ils se sont dit ok, Kylian, il est peut-être au-dessus, il est intouchable, il n'y a pas de souci, mais nous, on a notre mot à dire et on va tous créer un environnement que tout le monde va suivre.
Et je finis là-dessus, le seul, c'est Cherki qui a montré une certaine frustration sur le dernier match, par exemple. Bon, bah écoute, c'est sa personnalité, c'est comme ça. Et pour autant, tu le vois après dans la vie de groupe, il a le sourire, c'est le premier à faire des conneries. Donc, tu vois, c'est déjà digéré. Mais ce genre d'attitude de frustration, ça existe dans un groupe. C'est pas pour autant que
ça
va être problématique.
Ça va pas peser dans le groupe.
Non, mais parce que c'est ce que tout le monde a cherché à savoir. Oh là là, Cherki, qui a envoyé chier Deschamps et qui ceci.
C'est pareil pour Hollandaise. En compte, il est titulaire et d'un coup, il perd sa place de titulaire.
Oui, oui.
Doué, c'est pareil, il était titulaire.
Ouais,
il perd sa place face à Barcola.
Bah ouais,
ça ne crée pas de problème ni de tension.
Exactement. 19h34 sur RMC, on revient dans un instant.
Donc c'est tout droit.
On va parler, ça fait 6 mois qu'on vous le dit. Dans un instant, on parle des nations africaines.
Faut et de ce plafond vert
en match.
De là, on passe pour des cons.
Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h. Roten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Barcola face à Mendy. Barcola voilà. But
on est à 19h39 dans Roten sans flamme. On est à 10 minutes de la fin de de l'émission et de la semaine. Après, on se retrouvera lundi, comme chaque semaine. On analysera tous les matchs du week-end. Et surtout, on se projettera sur le quart de finale. Ça sera le quart de finale. On y sera forcément.
On sera France-Maroc, non ?
Sinon, on va passer pour des cons. Manu Petit, Christophe Dugarry, Benoît Boutron. Les 10 dernières minutes de Roten sans flamme. Et ça va être chaud.
Et on y va, Jérôme, l'arbitre vidéo t'appelle.
Ouais. Jérôme, je t'invite à écouter ça.
Et c'est fini. La Norvège élimine la Côte d'Ivoire. La Norvège a rendez-vous avec le Brésil.
C'est terminé. Qualification de la Belgique dans un match totalement scindlé. Les Belges éliminent le Sénégal. Victoire 3-2.
C'est terminé. L'Angleterre se qualifie en huitième de finale grâce à un doublé d'Harry Kane.
La VAR de Roten sans flamme.
Ce fameux plafond de verre des nations africaines en Coupe du Monde. Pour l'instant, seul le Maroc est qualifié pour les huitièmes de finale. Match demain face au Canada. Trois dernières chances pour le continent africain. L'Égypte contre l'Australie à partir de 20h sur RMC. Le Ghana face à la Colombie et le Cap-Vert contre l'Argentine. Parlons-en avec Nico Pelletier qui est en direct des États-Unis. Salut Nico.
Salut Nico.
Salut les amis, salut à tous.
Et malheureusement Nico, c'est une triste confirmation. Les nations africaines peinent à exister dans les matchs couperés.
Oui, dès la fin de la phase de groupe, avec 9 équipes africaines qualifiées sur les 10 engagées, on a eu droit à un communiqué fanfaronnant de la Confédération africaine qui dit que le travail porte ses fruits et qui met en avant que c'est la première fois que 9 équipes africaines se qualifient pour la phase à élimination directe. Alors oui, c'est normal, vu que c'est la première fois qu'on a des 16e de finale et 48 nations, c'est normal d'avoir 9 équipes plutôt représentées. Ce communiqué date du 29 juin, 4 jours plus tard, il ne reste plus qu'une seule équipe africaine déjà qualifiée en huitième, c'est le Maroc, tu l'as dit Benoît, en attendant les 3 matchs du jour. Mais en moins de 3 jours, on a perdu 5 équipes africaines sur les matchs à élimination directe. Et c'est avec les matchs du jour que l'on verra si le foot africain a évolué. En 2022, en huitième de finale, il y avait 2 équipes africaines engagées, le Maroc et le Sénégal. Pour l'instant, on n'a donc plus que le demi-finaliste de l'édition de 2022 qui poursuit l'aventure. On verra si l'Égypte, le Cap-Vert ou le Ghana permet au continent de sortir la tête de l'eau. Alors oui, il y a des belles histoires comme le Cap-Vert qui permet de redorer le blason. On dit toujours qu'il ne manque pas grand-chose, jamais très loin. Mais finalement, lorsque l'on dézoome et que les confrontations montent en niveau, le bilan africain n'est pas si terrible que cela. Et pour vous remettre un peu de contexte, en 2018, aucune équipe africaine n'avait atteint les huitièmes de finale. Et en 2014, 2 équipes avaient atteint les huitièmes de finale, éliminées en huitièmes de finale, l'Algérie et le Nigeria.
Merci Nico. Alors comment expliquer ce plafond de verre, Jérôme, des nations africaines en Coupe du Monde?
En fait, moi, c'est très simple. Déjà, j'ai du mal avec mettre toute
la généralisation.
Non, mais exactement, stigmatiser l'Afrique tous les pays se ressemblent. Alors déjà, ça veut rien dire en fait. Parce que
c'est quand même une tendance.
Non, mais en Europe, on le fait pas. En Amérique centrale, on le fait pas. En Amérique, non, mais excuse-moi, les équipes d'Amérique du Sud, quand elles se font sortir, et certaines n'ont pas existé, elles sont pas bonnes. Vous allez pas me dire, ah bah oui, mais les équipes d'Amérique du Sud, elles existent pas. Tu vois, en Europe, c'est la même chose. Il y a des équipes, tu peux tourner Coupe du Monde dans tous les sens que tu veux. Il y a des équipes, elles passeront jamais le cap. Voilà. Et des pays passeront jamais le cap. Elles sont européennes pour autant. Donc des équipes africaines, si vous attendez la même chose du Cap-Vert ou de l'Afrique du Sud, qui est déjà éliminée, parce que le Cap-Vert, ils sont pas encore éliminés, du Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Maroc, là, il y a un vrai problème, en effet. Après, si vous voulez analyser les claques reçues par certaines équipes africaines et expliquer que le développement du football met un peu plus de temps dans ces pays-là, ou on n'a pas encore pris la notion, si tu veux, la tendance pour faire gagner une équipe africaine, moi, je vais pas aller de ce côté-là. Pour moi, je vais être très clair. Le Sénégal, on l'a dit, l'élimination, c'est dû à toutes les conneries qu'ils ont pu faire avant la compétition, pendant la compétition, en dehors du terrain, et après le sélectionneur qui a pas su emmener tout un groupe. Ça, c'est la réalité, et on l'a vu de toute façon. Après, derrière, et certaines attitudes aussi qui déplaisent.
J'ai du mal à croire ça.
Mais moi, je vais te dire, la Côte d'Ivoire, vous les reprochez quoi, la Côte d'Ivoire? Vous pensez que c'est parce que c'est une équipe africaine qu'elle passe pas le cap, la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, elle a donné une leçon. Elle aurait jamais dû perdre contre l'Allemagne, d'accord? Donc, c'est à cause de quoi? Parce qu'ils sont africains, qu'ils ont perdu à la dernière minute? Non? Bon, bah voilà. Donc, pour moi, l'équipe de la Côte d'Ivoire, elle a réussi. Elle a réussi certains matchs. Moi, j'étais persuadé que la Côte d'Ivoire pouvait passer le cap. Je suis déçu de leur élimination, en effet, parce que je pense que contre la Norvège, ils avaient fait le plus dur en revenant au score, et que la meilleure équipe, pour moi, elle ne s'est pas qualifiée. C'est sûr. Et puis, je finis juste là-dessus en te disant que le Maroc, c'est une équipe africaine, on est d'accord. Le Maroc, ils ont fait demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Et là, aujourd'hui, on est tous.
Mais c'est l'exception qui confirme la règle.
Ah, d'accord. Bon, bah, d'accord. Ok.
Je suis désolé parce que toutes les équipes que tu as mentionnées, et c'est ça le paradoxe avec le continent africain, parce que génération après génération, le nombre de très grands joueurs, de joueurs exceptionnels dans différentes nations.
Oui, c'est vrai, il y en a toujours eu.
C'était plein, Eto'o, Drogba, Weah.
Mais peut-être que ceux-là, ils étaient esselés aussi.
Oui, peut-être, mais. Alors les équipes que tu as citées les unes après les autres durant ce mondial, elles ont toutes un point commun. Elles ont fait des belles prestations et souvent elles menaient au score et à chaque fois elles se sont écroulées à la fin du match. Pour les mêmes raisons. Est-ce que c'est, pour moi, c'est le mental. Je suis désolé de parler comme ça. Parce que quand tu mènes 2-0 contre le Belgique, tu peux m'expliquer tout ce qui s'est passé à l'extérieur du terrain. Tu peux pas perdre 2-0. Quand tu as l'avantage des zéros, tu as le match en main.
Oui, mais ça peut arriver à une équipe européenne, ça aussi.
Contre le Belgique, qui est fantomatique.
Mais d'accord, mais pourquoi?
Justement, regarde, le Congo, même si l'Angleterre a eu quelques. Le gardien de but du Congo a fait des super parades. Malgré tout, il menait 1-0. L'Algérie, rappelle-toi, contre.
Non, mais l'Algérie, c'était pas au niveau, l'Algérie.
Contre l'Autriche, rappelle-toi, ils mènent au score.
Ils n'ont pas de gardien déjà.
En dernier, tu me cites la Côte d'Ivoire contre l'Allemagne.
Ils ont joué avec
ils prennent un but en fin de match également. C'est toujours le même scénario qui revient.
Qu'est-ce que t'en penses, Odigan?
Non, mais déjà, c'est une énorme c'est une anomalie, déjà. Déjà, c'est une anomalie. Moi, je suis désolé, mais je veux pas croire que c'est le hasard. Comme par hasard, il y a une équipe qui s'en sort bien, c'est le Maroc. Le Maroc, ils ont décidé de prendre les choses en main, de se structurer, de mettre les moyens, des moyens considérables. Et le problème de l'Afrique et des pays, et alors je fais pas une généralité, mais un bon nombre de problèmes de pays africains, on l'a vu avec le Sénégal notamment, ils ont toujours autant de mal à se structurer et arriver dans une compétition, l'esprit libre, l'esprit tranquille, en mode commando, en mode mission, avec toutes les choses qui sont claires, nettes, précises. C'est le Sénégal où l'entraîneur n'avait pas prolongé son contrat. Ils sont arrivés alors pour les matchs de préparation, ils n'avaient pas payé les hôtels, donc ils n'ont pas réussi à faire des matchs de préparation. Enfin,
ils ont déconné.
Non, mais c'est toujours plus ou moins comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, c'est pas le hasard. Si le Maroc aujourd'hui fait partie des plus grandes nations footballistiques, c'est parce qu'ils ont mis les moyens. Ils se sont organisés avec le président de la Fédé, avec les moyens donnés par Son Altesse. En fait, tout est. Et c'est pas un hasard. Il faut arrêter de penser que c'est pas de chance. Non, c'est pas de chance. Si tu t'organises, si les choses sont faites avec qualité, avec organisation, avec maîtrise, et arrêter de penser tout en comptant une nouvelle fois ce qu'ils envoient.
Mais c'est pas le cas de toutes les équipes, ça.
Mais c'est pas le. Bien évidemment qu'il faut pas faire une généralité, Jérôme. Mais quand déjà tu fais un communiqué parce que t'as 9 équipes sur 10 en 16e de finale, mais dans 4 ans, ils vont nous faire un communiqué, il y aura toutes les équipes qui seront qualifiées, puisque dans 4 ans, il y aura les 32e de finale, donc elles iront toutes à l'élimination directe aussi. Donc au bout d'un moment, ça se moquait du monde. Et ça fait trop longtemps que beaucoup d'équipes africaines se cachent derrière des faux semblants. S'ils prennent les choses en main, ils sont capables de s'organiser, ils sont capables de bien faire les choses. Sauf que chaque fois, il y a des. Bon. Voilà, c'est le bazar.
Dans un instant, on va souhaiter bonne chance surtout à l'Égypte qui peut rejoindre le Maroc en huitième de finale. L'Égypte va affronter l'Australie, match à suivre en intégralité sur RMC, la radio officielle de la
Coupe du Monde 2026. Qu'est-ce qu'on va dire, c'est une équipe africaine.
C'est Pierre Dorian qui va prendre la suite pour l'Afterlife spécial Coupe du Monde. Un grand merci à Manu Petit, un grand merci à Christophe Dugarry et nous, Jérôme. On revient dès lundi pour fêter la qualif des Bleus en quart de finale.
Oh ben nous
de
c'est tout droit, mais regardez même pas le match. On se retrouve lundi, l'équipe de France sera en quart de finale de la Coupe du Monde. Demain, on croise les doigts, on va pas leur porter la guigne quand même. Beaucoup de matchs à intérêt tout au long du week-end. Profitez d'RMC, c'est là, c'est ici que ça se passe, la Coupe du Monde, et surtout dans Rotten sans flamme, l'émission référence, elle est là à partir de lundi 18h au Flora. On est de retour. Bisous, bon week-end à tout le monde et profitez de la Coupe du Monde.
RMC jusqu'à 20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Vous avez aimé l'émission ? Écoutez tout de suite ce que vous n'avez pas entendu sur RMC. Écoutez le carnet de notes.